92.7.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi, nous sommes en direct et nous sommes très heureux de vous accueillir en ce lundi 13 septembre. Et il a fait beau ce week-end partout dans notre région, il fait également beau à Lourdes avec David Torchala, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour David.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Oui, c'est vrai qu'il fait très très beau aujourd'hui à Lourdes.
Alors si vous êtes avec nous, c'est pas seulement pour parler de météo, mais aussi pour parler du sanctuaire de Lourdes. On va évoquer dans quelques instants plusieurs sujets, notamment avec votre invité, une mission du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en Savoie.
Oui, il s'agit du chemin de compassion. Voilà une proposition qui est assez discrète au sanctuaire et pourtant déjà depuis 2016 elle est proposée. On va en parler avec Cello Ferral, que j'aurai la joie d'avoir avec moi parce que oui, évidemment, même la Savoie s'intéresse à Lourdes.
Et puis dans cette émission également, nous resterons à Lourdes à 12h30 avec Mathias Terrier, son invité. À son micro, il reçoit Mgr François Bustillo, l'évêque d'Ajaccio et cardinal depuis 2023. Il a publié ce livre qui s'intitule Réparation, paru aux éditions Fayard, il sera dans notre invité aux alentours de 12h30. Et puis vendredi 10 octobre, Tarbes était en rose pour la 9e édition de la Tarbelle. Plus de 7000 participants ont marché dans les rues de la ville dans une ambiance à la fois conviviale, sportive et solidaire. Et parmi les marcheurs, il y avait Philippe Subercase. On pourra le retrouver dans un instant avec son reportage. Mais pour le moment et pour débuter cette émission, place à l'actualité régionale avec les titres à la une. Titre présenté par Éric Leclerc.
Ce dimanche se déroulait le second tour de l'élection législative partielle dans la première circonscription de Tarn-et-Garonne. Il opposait Pierre-Henri Carbonel de l'UDR face à Cathy Bourdon du PS. À l'issue de ce second tour, victoire de Pierre-Henri Carbonel avec 52,3% et 47,7% pour Cathy Bourdon. Ouverture des premiers rendez-vous pour les consultations assurées par des médecins solidaires en Occitanie pour les habitants de zones prioritaires identifiées dans les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne, l'Hérault et le Tarn pour la communauté de communes au Languedoc. En Occitanie, la mobilisation des médecins solidaires a permis d'organiser et de proposer dès maintenant les premiers créneaux de consultation aux services d'habitants des zones prioritaires concernées et en priorité pour les patients qui ne bénéficient plus actuellement d'un médecin traitant. Mise en quarantaine de la SPA du Gers à Ordan-la-Roque après la découverte de cas de teigne et de giardiose sur des chats et des chiens. La giardiose est un parasite au niveau du tube digestif. Quant à la teigne, elle est due à des champignons causant une infection dermatologique. Ces deux maladies ont touché 137 chats et 68 chiens. Fermée depuis samedi, la SPA du Gers doit ouvrir ses portes le samedi 25 octobre.
Merci Éric Leclerc, on vous retrouve dans une demi-heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence à Gourdon. 104.8.
Et merci d'avoir choisi Radio Présence, direction le sanctuaire de Lourdes avec David Torchala. Rebonjour David.
Rebonjour Gilles.
Comme chaque semaine, on vous accueille pour évoquer l'actualité du sanctuaire de Lourdes. Auparavant, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire. Avant d'écouter votre invité qui est à vos côtés, on va parler de cette mission qui s'appelle Ensemble avec Marie à Lourdes du 18 au 21 octobre. De quoi s'agit-il?
Eh bien, c'est cette semaine à Lourdes, c'est un pèlerinage ensemble avec Marie, où les chrétiens et musulmans sont invités à se réunir à Lourdes, à partager un temps de prière, un temps de dialogue, de méditation et surtout de fraternité. Les organisateurs de ce pèlerinage Ensemble avec Marie poseront leurs valises à la cité Saint-Pierre de Lourdes, hein, la cité du secours catholique, ici tout proche du sanctuaire. Et voilà, pour vivre un temps ensemble, un temps d'échange. Il est assez rare, hein, que le sanctuaire accueille des événements qui participent à la famille de l'interreligieux. Et en tout cas, c'est grâce à cette association Ensemble avec Marie qui est vraiment née d'une initiative vraiment en faveur de la promotion de la paix, de la fraternité entre tous. C'est vraiment dans le respect et dans les différences. Alors évidemment, c'est un temps du mouvement, d'une organisation. Ils seront salués par Monseigneur Jean-Marc Mika. Vous savez qu'au même moment, ce week-end, c'est le pèlerinage de la Bigorre. Alors ça fait partie des pèlerinages qu'on aime beaucoup, nous ici, les Bigourdans, parce que c'est le nôtre. Voilà. Et donc, Anne-Rose Jankovic ne manquera pas, j'en suis sûr, à cette antenne, de vous faire découvrir ce pèlerinage. Et donc, Monseigneur Jean-Marc Mika sera là pour venir accueillir tous les membres de cette rencontre. Et puis, particulièrement, j'attire votre attention parce qu'il y a un temps qui sera ouvert à tous. C'est dimanche de 15h à 18h à la chapelle Notre-Dame du Sanctuaire. Alors, il faut la trouver, cette chapelle. Elle est juste à côté des studios de Radio Présence. Vous voudrez nous faire un coucou comme cela. C'est vraiment un temps ouvert à tous, pour pouvoir aussi s'entretenir avec les participants. Il y aura notamment comme intervenant Tarek Oubrou, c'est l'imam français, le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui est auteur de nombreux ouvrages, et il sera là. Il est particulièrement reconnu pour promouvoir un islam adapté à la France, conciliant foi, ouverture et respect des valeurs républicaines. Il y aura aussi le frère Jean-François Bourg, qui est spécialiste de l'islamologie et du dialogue interreligieux. C'est un dominicain, directeur du service national pour les relations avec les musulmans. Donc voilà, ce temps, il est important de le noter. Donc si vous le pouvez, venez rejoindre les participants d'Ensemble avec Marie. C'est dimanche 19 octobre de 15h à 18h.
Voilà, donc c'est du 18 au 21 octobre Ensemble avec Marie à Lourdes. Vous l'avez évoqué, ce week-end c'est également le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes. On détaillera le programme avec Anne-Rose Jankovic, mais les Bigourdans seront pèlerins d'espérance ce week-end avec Marie.
Et oui, évidemment, le jubilé continue, le jubilé de l'espérance. On en a encore jusqu'à l'épiphanie l'année prochaine, voilà. Donc autant le dire. Et puis c'est vrai que c'est important. Vous voyez, encore ce matin on me disait, mais est-ce que tu viens au pèlerinage de la Bigorre? Parce que c'est vrai que quand on vit ici, c'est vraiment un temps pour se retrouver, pour se réunir. Alors on a trouvé les arguments, on m'a dit qu'il y avait une farandole de dessert après le pique-nique du dimanche après-midi, vous voyez, on s'est trouvé les arguments. Enfin en tout cas, il y a vraiment un temps de rencontre avant la messe de dimanche après-midi. Je crois, il faudra voir avec Anne-Rose Jankovic, j'ai entendu qu'il y avait 5000 Bigourdans pour ce pèlerinage.
Voilà, et les équipes de Radio Présence se mobilisent, puisque pour les auditeurs de la Bigorre, du Gers et du Béarn, on pourra écouter des retransmissions ce week-end pour suivre le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes, mais le mieux évidemment, c'est de venir.
Exactement, venez. Et puis aussi, Gilles, j'ai à côté de moi une invitée toute spéciale.
Qui revient de Savoie, je crois.
Qui rentre de Savoie, c'est Cello Ferral. Bonjour Cello.
Bonjour à tous.
Avec Cello Ferral, on s'est dit qu'on pouvait l'accueillir aujourd'hui à midi parce que vous rentrez, Cello, tout juste de Savoie. Vous êtes allé faire découvrir le chemin de compassion. Le chemin de compassion, ça c'est une proposition du sanctuaire depuis plusieurs années. De quoi s'agit-il?
Le chemin de compassion, c'est un chemin, un parcours pour accueillir un peu les personnes qui ont vécu la perte d'un enfant, que ce soit avant la naissance ou après la naissance. On les accompagne pour pouvoir aller au fond de leurs blessures et leur donner l'espérance et la miséricorde de Dieu. Donc c'est pour les enfants qui ne sont pas nés, on leur propose à la fin du parcours de donner un prénom à cet enfant qui n'est pas arrivé à terme, volontaire ou involontairement. Et après, ces prénoms sont inscrits dans les livres des vies qui sont devant la chapelle ou à la chapelle des moniales et qui prient pour ces enfants tous les jours.
Vous avez ainsi l'habitude de recevoir ces parents souvent soit désœuvrés en attente, en tout cas vis-à-vis de la situation qu'il traverse. Comment se passe cette rencontre avec ses parents?
Ben, c'est sur rendez-vous. Les rendez-vous se prennent au centre d'information du sanctuaire. Les numéros, c'est les 05 62 42 20 08 ou par mail. Et c'est des rendez-vous personnalisés. C'est de tous les jours de la semaine, sur 7 jours sur 7. Et on arrive à s'adapter aux besoins des personnes. Non, pas tout le monde peut arriver à leur proposer, donc on peut s'adapter pour pouvoir les accompagner pendant ces temps pour vraiment découvrir l'amour et la miséricorde de Dieu à Lourdes.
Ça veut dire on se met en marche et on part dans le sanctuaire pour dialoguer, échanger, découvrir. Comment ça se passe concrètement ?
Oui, c'est un parcours qui dure à peu près une heure et demie. On commence à la Vierge couronnée qui nous accueille, une femme qui est enceinte et qui accueille tous ceux qui ont vécu une maternité failli ou une maternité tout court. Un parcours qui va vers les chapelles des mystères joyeux, le mystère de l'enfance de Jésus, la grotte, les chapelles de lumière, les gestes de l'eau. C'est un chemin, un parcours qui vraiment va au fond de notre maternité ou de notre paternité.
C'est même en Savoie que l'on a entendu parler aussi du ce chemin de compassion. Les Savoyards vous ont appelé, vous ont dit venez nous voir, venez nous enseigner. On voudrait faire une proposition un peu similaire en Savoie, c'est ça ?
Mais cela fait 2 ans qu'on travaillait à cette émission. C'est un prêtre savoyard qui lui-même a vécu la perte d'un petit frère et voyant un peu la détresse de sa maman qui a voulu savoir un peu plus, et quand il a su ses chemins à Lourdes, il a voulu savoir comment ça s'est passé, et au bout de 2 ans, on est arrivé à créer avec eux un chemin de compassion à la chapelle, à la belle chapelle de Notre-Dame de la Vie, et qui a fait que on accompagne cette équipe de médecins, des sages-femmes. C'est aussi des prêtres, des diacres, un peu des bénévoles et qui veulent se mettre un peu à la portée de toutes ces familles qui sont en souffrance.
Vous n'êtes pas partie seule en mission, vous êtes partie accompagnée. Avec qui ?
Oui, je suis partie avec sœur Geneviève Pagès, sœur de la Charité de Nevers, une sœur de Bernadette, si on peut dire, et qui elle est bénévole pour ces chemins de compassion. Et toutes les deux, on a passé une semaine à parler de Bernadette, de Lourdes, de ces chemins de miséricorde et de compassion et de la famille Notre-Dame, puisque toutes les deux, nous sommes membres de la famille Notre-Dame de Lourdes.
Voilà, Cello Ferral qui a été missionnaire, vous êtes parti aller voir d'autres montagnes, pas seulement les montagnes des Pyrénées, mais bien dans les Alpes pour faire découvrir, vous l'avez dit, Bernadette, et puis ce chemin de compassion. Vous voyez, Gilles, il y a encore des choses qui ne sont pas véritablement connues à Lourdes, parce qu'il y a l'accueil des foules, des flux, j'ai envie de dire, un flux ininterrompu de personnes, et puis aussi de l'accueil sur mesure, du tête-à-tête. On peut aussi vivre ça à Lourdes. Merci, Cello Ferral, d'être venu nous
avec
en parler.
Avec grand plaisir.
Voilà, et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, sur lourdes-france.com, on peut retrouver un reportage avec des photos et plus de détails sur cette mission du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Voilà pour cette semaine, une partie de l'actualité du sanctuaire de Lourdes, avec une saison des pèlerinages qui se termine peu à peu, finalement.
Ben oui, mais qui n'est pas encore terminé, en fait, Gilles. Vous savez, il y a eu énormément de monde. À ce stade, on peut compter plus 25% de passages aux portes du sanctuaire. Ça ne veut pas dire 25% de pèlerins, mais on arrive à totaliser les entrées et les sorties. Donc, on voit qu'il y a eu plus de mouvements. Alors, on pouvait se dire que l'année jubilaire, tout le monde pouvait se rendre à Rome, évidemment, et puis pas forcément à Lourdes. Bon, je crois que ça n'a pas été le cas. Finalement, Lourdes a été, et toujours, un lieu jubilaire important. Il y a encore des grandes dates, il y a encore les Camarguais, les gardiens de Camargue qui arrivent, il y a encore évidemment les évêques de France, la Coref, il y a encore pas mal de groupes et de pèlerinages, au moins jusqu'à mi-novembre, et après on pourra se reposer un peu.
Voilà, et les gens nous demandent tout le temps quand c'est que les gardiens viennent à Lourdes. Cette année, c'est du 25 au 27.
Vous avez raison, du 25 au 27 octobre, venez prendre, il y a les beaux chevaux blancs, voilà. Les belles tenues, et de belles danses, de belles sardanes sur l'esplanade du Rosaire.
Voilà pour l'actualité du sanctuaire de Lourdes. Un grand merci, David Torchala. Je rappelle que vous êtes la directrice de la communication et du ressources pour le sanctuaire. Merci et bonne semaine à Lourdes.
Bonne semaine à tous.
Présence.
Bon appétit, c'est la suite de cette émission, c'est avec Tarbes. Tarbes qui était en rose pour la 9e édition de la Tarbelle. Plus de 7000 participants ont marché dans les rues de la ville dans une ambiance conviviale, sportive et solidaire. C'était vendredi dernier. Record battu avec dans les rues de la ville de Tarbes, Philippe Subarcaz et son reportage. On l'écoute dans une minute.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Radio Présence à Figeac. 97.7.
Vendredi dernier, vendredi 10 octobre, elles étaient plus de 7000 à envahir les rues de Tarbes pour la 9e édition de la Tarbelle. Une marée rose de sourires à perte de vue et un même élan de solidarité au profit de la lutte contre le cancer. Le top départ était donné à la tombée du jour, à l'extérieur du stade Maurice Trélu, pour un parcours de 6 km à travers les rues emblématiques de la ville. Plus de 1700 participants ont pris la course chronométrée, tandis que plusieurs milliers d'autres ont préféré le marcher dans une ambiance conviviale et lumineuse. Je vous propose d'écouter Gérard Trémège, le maire de Tarbes. Il nous fait part de sa satisfaction pour cette 9e édition.
Gérard Trémège, vous êtes le maire de Tarbes. C'est la 9e édition de la Tarbelle. Vous vous disiez l'année dernière, à la même heure, l'année prochaine, on explore les scores et c'est le cas.
Oui, on a explosé les scores. On est plus de 8000 là. Et encore, il y a beaucoup de coureurs. J'ai dit, quelques hommes habillés en femmes qui sont venus, qui n'ont pas été décomptés. Mais c'est un succès considérable, considérable. Donc, on est très heureux. Je suis très heureux d'abord pour les organisateurs, tous les services de la ville, services des sports, le service communication, l'engagement des services techniques, de la police, tout le monde. Il y a eu un engagement enthousiaste sur cette manifestation et cet enthousiasme, on le retrouve dans le côté festif. Vous voyez, les gens se retrouvent après à la course pour venir manger un bout. Les marcheurs vont bientôt arriver. C'est extraordinaire. Donc moi, je remercie toutes celles qui ont participé à cette manifestation. C'est symbolique. C'est symbolique, une présence aussi importante pour dire, certes, c'est un rassemblement convivial, sportif, mais c'est aussi un symbole fort pour dire à toutes les femmes que le cancer du sein mérite qu'on soit très vigilant. Et la prévention est une nécessité absolue. Je suis heureux que Annette Cuc, la présidente de la Ligue contre le cancer, ait rappelé tout à l'heure quels étaient les enjeux considérables en la matière. La détection du cancer du sein est fondamentale. Et la détection, plus elle est anticipée, et moins les difficultés se retrouvent à la suite. Voilà. Donc, il faut anticiper tout cela.
La ville de Tarbes est très engagée contre le cancer parce qu'il y a Octobre Rose avec le succès qu'on le connaît, mais vous avez aussi organisé la Tarbox qui a été aussi un succès au mois de mars.
Oui, tout à fait.
Pour les cancers masculins.
Oui, absolument, absolument. Et vous avez, je pense que vous avez noté que même pour la Tarbelle, il y avait des Tarbots habillés en femmes.
Enfin, oui.
Voilà. Donc, il y a une mobilisation. D'abord, c'est sympathique, mais je répète, moi, derrière le côté sportif et sympathique, il y a cette symbolique qui doit permettre à chacune et à chacun de réfléchir à ce que représente cet engagement.
Oui.
La détection du cancer du sein et la prévention est fondamentale.
Bien sûr, il y a le côté festif, on passe un bon moment, elles vont passer un bon moment. Après, elles vont sûrement partir aussi dans les restaurants.
Voilà, surtout il y a des animations dans la ville. Moi, je remercie tous les établissements, les restaurants, les bars, qui ont procédé à des décorations, des animations sur le parcours, ce qui fait que c'est aussi une grande fête. C'est une grande fête où on se retrouve et je suis très heureux de ce succès.
Voilà, et on a du monde qui vient de partout parce que moi j'ai vu des Lourdes, j'ai vu des gens d'Argelès, en fait, vous êtes ville-préfecture, mais tous les gens du département se sont mobilisés.
Oui, parce que les 8000 personnes qui sont là, elles sont pas toutes de Tarbes. Hein.
Oui.
Il y en a même qui viennent du Gers. J'ai vu qu'il y avait des voitures du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, etc. Ce qui veut dire que cette manifestation, elle marque les esprits. Au-delà du sport et du côté festif, elle marque les esprits en disant « ben moi, je veux en faire partie ». Je veux transmettre ce message aussi. C'est important.
Voilà, à l'instant, c'était Gérard Trémège, le maire de Tarbes. Écoutons maintenant son adjoint au sport, monsieur Thomas Dacosta, qui était bien sûr présent également à cette 9e édition.
Mais écoutez, quand Tarbes décide de sortir son symbole de force et de soutien dans la lutte contre le cancer, ben voilà, ça donne un très bel événement comme la Tarbelle de ce soir. Il y a une mobilisation qui se fait sous l'égide du sport et toutes les valeurs qui sont véhiculées. On s'en prend malheureusement un petit peu trop au sport et souvent pour des raisons de santé, on peut plus le pratiquer ou alors justement on s'en sert pour se sortir d'une maladie, d'un mauvais moment de vie, d'un tournant un peu difficile. Et bien là aujourd'hui, ça prouve qu'on arrive aussi à mobiliser l'humain à travers ces différentes valeurs et ça donne un bel événement comme ce soir. Et la ville est très très fière justement de pouvoir grâce à son service et grâce à tous les bénévoles qui ont été mobilisés, de pouvoir mener un tel événement pour cette belle cause.
Alors, il y a Octobre Rose avec la Tarbelle, mais vous occupez d'autres cancers, vous avez fait d'autres opérations. On s'était vu au mois de mars.
Bien sûr, c'était pour la Tarbox, donc un Irox qui est une discipline, donc une des disciplines du CrossFit qui permet de mobiliser un petit peu les hommes parce qu'on avait du mal à les mobiliser au mois de novembre. Donc, on a créé, nous, le Mars Bleu et cette Tarbox donc, qui a généré plus de 700 participants. Et donc, on espère que pour l'édition 2026, on ait le double des participants par rapport à l'année d'avant.
Oui, parce que si on est à 7300 à peu près aujourd'hui, ça a démarré, même Octobre Rose, même la Tarbelle, ça a démarré doucement et c'est monté crescendo.
Exactement. Donc, on attend à ce que les hommes puissent se mobiliser aussi bien que les femmes.
Voilà, c'était à l'instant Thomas Dacosta, adjoint au maire de la ville de Tarbes. On va continuer plutôt vers le volet médical cette fois-ci, où j'ai pu interroger Olivier Savé, c'est le directeur de la polyclinique Lormont.
Déjà, je suis fier de participer à une course caritative, mêlant solidarité et performance. Et effectivement, il est important aujourd'hui, quand on représente les acteurs de soins, de pouvoir contribuer à lutter contre ce mal. Et l'Institut du Sein que nous soutenons a pour vocation justement de pouvoir proposer une prise en charge du dépistage à l'après-cancer, mais surtout un accompagnement personnalisé aux femmes, parce qu'au-delà du traitement, on a des besoins de soutien psychologique, des besoins d'activité, des besoins de reconstruction mammaire. On a donc beaucoup de choses à voir et les dames ne sont pas forcément en capacité de l'exprimer. Donc, ce que nous proposons, c'est une personnalisation de la prise en charge.
Une fois qu'on a pris la mammographie, vous les faites vous-même les mammographies, vous avez plusieurs sites maintenant.
Sur la clinique de Lormont, on est capable de pouvoir accueillir effectivement parce que on a à la fois les gynécologues qui sont dans le dépistage, mais on a à la fois la radiothérapie qui permet qu'il y ait une des possibilités de traitement, il y a la chimiothérapie également que nous sommes capables de proposer, les oncologues qui suivent les dames qui ont ce type de traitement, et on a également en après-cancer les parcours en réhabilitation physique, mais jusqu'à la reconstruction mammaire, voire le tatouage pour certaines dames pour pouvoir cacher le mal, les cicatrices.
Alors, beaucoup de femmes sont là, elles sont venues passer un moment festif. Malheureusement, on ne les retrouve pas forcément dans les contrôles. Quel message vous pouvez leur dire ?
De pouvoir penser à elles, de se dépister, de pouvoir toucher les seins comme le docteur Winock l'a dit, et au moindre questionnement, il faut aller voir son gynécologue pour faire un contrôle. Ça peut être rien du tout, ou ça peut être malheureusement le dépistage d'un cancer. Quand il est pris au bon moment, au début, à la naissance, il y a toutes les chances de s'en sortir dans les meilleures conditions possibles. Donc, allez vous faire dépister, ne restez pas dans l'inquiétude ou le questionnement.
Voilà. Faire la Tarbelle, c'est bien. Passer un moment agréable, c'est bien.
Également.
Finir à la soirée, mais il faut pas oublier quand même ce message de prévention. Hein.
Exactement. Donc, allez vous faire dépister.
Voilà, c'était à l'instant Olivier Savé, directeur de la clinique de Lormont à Tarbes. Et on termine par le discours qu'a prononcé Annette Cuc, la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées, sur l'estrade qui avait été mise en place juste avant le départ de la course.
Bonsoir à toutes, je suis très très contente de vous voir si nombreuses, tout en rose, c'est merveilleux. Voilà, il ne faut pas vous oublier qu'on est là pour faire la promotion du dépistage du cancer du sein, parce qu'il n'y a encore que la moitié des femmes qui se font dépister, et ça c'est pas bien. Il faut absolument qu'on augmente ce... Et c'est pour ça que vous êtes là, parlez-en autour de vous. Bon, vous, vous êtes trop jeune pour le faire, mais il y en a quelques-unes de plus de 50 ans. Donc de 50 ans à 74 ans, n'hésitez pas. On vient même avec un camion dans le département pour aller vers vous, pour aller faire la mammographie le plus près de vous. Voilà, merci à toutes d'être aussi nombreuses. Et voilà, et puis prenez du bon temps, faites de l'activité physique, ça vous préviendra du cancer. Merci beaucoup.
Voilà, c'était donc la présidente de la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées qui était présente donc bien sûr avec un stand de la Ligue où ils ont pu donner bien sûr de l'information mais vendre aussi quelques goodies et puis la recette, une partie de cette recette de cette édition de la Tarbelle à Tarbes sera versée bien sûr à la Ligue contre le cancer avec une partie qui sera donnée à la Ligue nationale pour la recherche et une autre partie sera conservée dans le département pour aider les malades et les aidants sur des soins de support, mais également des aides financières. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 9e édition de la Tarbelle, où, je vous le répète, il était plus de 7300 personnes à prendre le départ donc, de cette belle course et de cette belle marche à travers les rues de Tarbes.
Et merci aussi à vous, Philippe Cybercaz, qui était donc vendredi soir dans les rues de Tarbes pour ce reportage. Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Dans un instant, le journal d'Éric Leclerc. Et juste après, bien notre invité, c'est Mgr François Bustillot, évêque d'Ajaccio et cardinal depuis 2023. Il vient de publier aux éditions Fayard ce livre « Réparation ». Au micro de Mathias Terrier, il va nous appeler à réparer l'espérance et il rappelle d'ailleurs que le rôle des chrétiens n'est pas de rester spectateur mais d'apporter l'espérance dans une société bouleversée. Il est l'invité de Deux Passages à Lourdes juste après le journal présenté par Éric Leclerc.
Bonjour, ce dimanche se déroulait le second tour de l'élection législative partielle dans la première circonscription de Tarn-et-Garonne. Il opposait Pierre-Henri Carbonel de l'UDR face à Cathy Bourdoncle du PS. À l'issue de ce second tour, victoire de Pierre-Henri Carbonel avec 52,3% et 47,7% pour Cathy Bourdoncle. Le département de Tarn-et-Garonne n'aura bientôt plus qu'une seule maternité sur son territoire. La direction de la clinique Boyer-Montauban a décidé de fermer sa maternité début 2026. Une décision motivée par la difficulté de recruter du personnel et par une baisse du nombre de naissances. Ces dernières années, d'autres maternités avaient fermé dans ce département. En 2003, l'hôpital de Moissac et en 2021, celle du Pont de Chaume. L'année prochaine, le Tarn-et-Garonne n'aura qu'une seule maternité, celle du centre hospitalier de Montauban. Ouverture des premiers rendez-vous pour les consultations assurées par des médecins solidaires en Occitanie pour les habitants des zones prioritaires identifiées dans les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Tarn-et-Garonne, l'Hérault et le Tarn pour la communauté de communes Haut-Languedoc. Les premiers médecins solidaires se sont portés volontaires en s'inscrivant sur la plateforme nationale dédiée Solidarité entre médecins en Occitanie, Je veux participer. Cette plateforme recense des volontaires et leur disponibilité territoriale pour ces missions ponctuelles d'exercice solidaire. En Occitanie, la mobilisation de médecins solidaires a permis d'organiser et de proposer dès maintenant les premiers créneaux de consultation aux services habitants des zones prioritaires concernées et en priorité pour les patients qui ne bénéficient plus actuellement d'un médecin traitant. Mise en quarantaine de la SPA du Gers à Ordan-la-Roque après la découverte de cas de teigne et de giardiose sur des chats et des chiens. La giardiose est un parasite au niveau du tube digestif. Quant à la teigne, elle est due à des champignons causant une infection dermatologique. Ces deux maladies ont touché 137 chats et 68 chiens. Fermée depuis samedi, la SPA du Gers doit rouvrir ses portes le samedi 25 octobre. Première édition du rendez-vous des relayeurs mardi 14 octobre de 10h30 à 14h, salle Baleine à Figeac. Le constat, un quart des dirigeants de PME et d'ETI a plus de 60 ans. Or, la diminution du nombre de cessions est constante depuis 2010. Elle a baissé de 19% durant la décennie 2010-2020. Face à cette situation inquiétante qui fragilise la survie des entreprises, affaiblit la vitalité des territoires, la compétitivité de l'économie et menace l'emploi, le réseau des CCI a fait de la transmission et de la reprise une priorité stratégique. Entre 2022 et 2032, pas moins de 700 000 entreprises seront à céder en France. À l'échelle locale, elles constituent un défi essentiel à relever pour la vie du territoire lotois. Les rendez-vous des relayeurs, c'est demain, mardi 14 octobre, de 10h30 à 14h à Figeac, salle Baleine. Adopte une plante. Rendez-vous mercredi 15 octobre au jardin des Tilleuls à Lourdes. À l'automne et au printemps, les jardiniers de la ville proposent aux habitants de récupérer des plants. Notez la date, c'est ce mercredi 15 octobre de 10h à 13h.
Merci Eric Leclerc. Voilà pour l'actualité régionale. Retour de l'info sur notre antenne dans moins d'une demi-heure avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. Pour le moment, place à Mathias Terrier avec son émission De Passage à Lourdes et son invité.
Présence De Passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la parution de Réparation, nous recevons le cardinal François Bustillot. Bonjour.
Eminence. Bonjour.
Bienvenue chez vous, j'ai envie de vous dire, parce que Lourdes est un lieu que vous fréquentez depuis longtemps, que je crois vous aimez, vous nous le direz, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. J'aimerais aussi que nous parlions de la Corse, parce que vous êtes évêque d'Ajaccio. C'est par là que j'aurais dû commencer. Mais c'est à l'occasion de la sortie de ce livre « Réparation » que nous vous invitons. Ce livre a deux visages. Un premier visage, c'est quand même une description sans concession de ce que nous sommes, de notre société. Puis après, il y a l'horizon de l'espérance que vous proposez dans toute une deuxième partie de cet ouvrage. Vous avez pris conscience ces dernières années que notre société était un peu malade d'elle-même, de ses travers. Comment ça s'est fait pour le franciscain que vous êtes, d'abord, de cette prise de conscience ?
Effectivement, quand on regarde la société telle qu'elle est, nous voyons la réalité. Et dans la réalité, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de violences, beaucoup de fractures. Moi, je suis toujours peiné quand j'écoute les nouvelles, et on voit l'autre jour un jeune adolescent de 13 ans qui agresse une enseignante. Mais ce n'est pas normal que nous soyons dans une société si violente, où les plus jeunes, pour une difficulté, ils sortent un couteau. Ce n'est pas normal. Et donc, ces nouvelles deviennent presque naturelles. Moi, je me dis, il faut réagir. Nous ne pouvons pas nous limiter à constater qu'il y a des problèmes, à constater qu'il y a des difficultés, et à les dire par les médias ou les réseaux sociaux. Il faut quand même qu'il y ait une réaction adulte, mature, courageuse, pour changer cette mentalité. Nous sommes devenus tous des juges. On est une mentalité des juges. On juge, on condamne celui-ci, celui-là. Il a fait, il n'a pas fait, il a dit, il n'a pas dit. Et je crois qu'il serait intéressant et important pour notre société de développer une mentalité de philosophe, où au lieu de juger et condamner, on essaie d'abord de connaître et de comprendre les autres, et après de grandir avec eux.
Et donc vous trouvez que cette société, elle est malade de cela, du jugement hâtif, elle est malade aussi de cette capacité à lapider, alors médiatiquement, socialement
Nous sommes habités par la peur. Je crois que la peur est la racine de ces mécanismes qui nous poussent les uns contre les autres. L'autre, au lieu d'être un cadeau, est vu comme un fardeau. Et à la fin, on a peur des autres. Et on se protège des autres. Et on attaque ceux qui ne sont pas comme nous. Quelque part, on développe une logique, une mentalité tribale où on protège les siens et on attaque les autres. Et à la fin, on vit dans la peur et la méfiance. Il me semble important pour une société adulte et pacifique, civilisée, de retrouver l'espérance, de retrouver l'intelligence. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'émotions en tout ce qu'on fait. Beaucoup des réactions se font dans l'émotion, sans réflexion. Retrouver la réflexion, retrouver la rationalité, contrôler les émotions pour être moins tendu, moins crispé et moins violent.
On continue sur la description que vous faites de ce que nous sommes, je dis de ce que nous sommes, de notre société. Vous dites qu'il y a quasi un repli tribal, parfois. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le repli identitaire aussi ? C'est tout ça ?
Nous sommes tous tellement durs, intransigeants et violents qu'à la fin, il y a une forme, on déclenche une forme d'hermétisme où on est seulement avec ceux qui sont comme nous. Ceux qui sont bien gentils comme nous, ceux qui pensent comme nous, et on risque de tomber dans une forme clonique de société, où on est tous pareils. Et la dimension de la diversité, la dimension de l'altérité, la dimension de la complémentarité, sont complètement érosionnées, disparaissent. Je crois que qu'il y ait des différences dans la société est très sain. Qu'il y ait de personnes qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas mon caractère, qui n'ont pas mon parcours et mon histoire, c'est normal. Ce n'est pas un danger pour moi. À nous d'être intelligents et de savoir que l'autre n'est pas une menace, mais un atout. Mais je dois connaître l'autre, grandir avec l'autre et voir que l'autre n'est pas contre moi nécessairement. Après, s'il est contre moi, je gère. Nous avons tous des mécanismes liés à l'intelligence et à notre humanité pour savoir accompagner aussi les moments inconfortables de la vie.
Est-ce que vous diriez que l'individualisme augmente encore ces phénomènes ? Parce que c'est vrai qu'on est tous dans un en-soi, on se fait son petit univers à soi propre, se sacralisant nous-mêmes ou étant dans des processus de défense personnelle.
Tout à fait, l'individualisme, l'égoïsme, sacrifie totalement notre tendance naturelle à l'altruisme. On ne va plus vers les autres. On a peur des autres. Ou on va vers ceux qui sont comme nous. C'est-à-dire, on vise la voie de la sécurité. Et le propre de la tradition chrétienne, c'est pas comme quand on prend l'évangile, c'est aimez-vous les uns les autres et vous êtes tous frères. Et alors moi, je me dis, la fraternité, elle est où ? Elle est disparue ? Elle est restée virtuelle, elle est utopique. Et qui croit aujourd'hui à la fraternité ? Et le propre de la fraternité, c'est d'incarner des comportements et des attitudes humaines, civilisées, pacifiques, pour que nous puissions être heureux ensemble. On parle tout le temps du vivre ensemble, mais à la fin, c'est quoi ce vivre ensemble ? Comment on le vit ? On peut vivre ensemble d'une manière malheureuse ou heureuse. À nous de nous appliquer pour que le vivre ensemble ne soit pas une croix, un chemin de croix, mais un chemin de lumière.
Si vous le voulez bien, Mgr Bustillo, dans une autre partie de cette émission, nous verrons quelles sont justement les propositions que vous faites dans ce livre. Mais on en reste là à la description que vous faites de notre société. Vous parlez aussi de toute une démarche de victimisation. Comme si aujourd'hui les personnes se protégeaient en se victimisant. Alors, ça paraît un peu à contre-courant ce que vous proposez là, alors qu'on serait enclin à croire que vous défendez les victimes.
On défend les victimes et on protège les victimes. Mais toujours, ça c'est évident. Mais dans notre société, il y a beaucoup de fragilités. Et nos fragilités nous poussent un peu à nous placer très vite en victime. Si quelqu'un me fait quelque chose, il m'a fait, il m'a dit, et donc je souffre, c'est la faute de l'autre.
Je suis harcelé.
Voilà, on utilise des termes. Alors, avec tous les mécanismes profondément humains, alors, si moi, je viens vers vous, je vous pose des questions, je m'intéresse à vous, il va dire, il me harcèle. Si je vous laisse tranquille, parce que je veux pas être tout le temps sur vous, on va me dire, il m'abandonne. Donc, il y a des mécanismes un peu basiques, binaires,
qui sont exagérés parfois.
Qui ne sont pas sains.
Et qui ne permettent pas de voir les vrais harcèlements et les vrais problèmes d'abus.
Les vrais problèmes de harcèlement, abus, sont graves, touchent à la dignité de la personne. Il faut lutter toujours contre ces mécanismes, ces comportements qui sont mauvais et mortifères. Mais aujourd'hui, on utilise des termes avec une certaine légèreté qui ne correspondent pas à la réalité. Si quelqu'un me téléphone deux fois pour me dire « Est-ce que tu as fait les photocopies ?» à mon évêché, il ne va pas me dire « L'évêque me harcèle ». Donc on doit vivre. C'est pour ça que je dis dans mon livre, on a perdu la dimension de la confiance. Et c'est pour ça qu'on est toujours un peu dans la méfiance. Pourquoi il m'a dit ça ? Tu as vu comment il m'a regardé ? Tu as vu ce qu'il m'a dit ? Si on perd la dimension de la confiance, la confiance, c'est la capacité de vivre une vie relationnelle dans laquelle il n'y a pas de crispation, il n'y a pas de violence. Mais si nous sommes dans la méfiance, évidemment, on va sentir les autres, ce qu'ils nous disent ou comme ils le disent, comme une agression. Alors comment sortir de cette logique où on se sent tout le temps agressé, on se sent tout le temps menacé? Mon Dieu, il faut respirer un peu. S'il y a des comportements d'abus, il faut les dénoncer, c'est certain. Mais après, dans la vie relationnelle, je dis ordinaire, il nous faut un peu plus de simplicité, je dirais. Il nous faut un peu plus de, je dirais aussi, de force intérieure. Parce qu'il faut avoir la capacité de tenir, d'aller de l'avant, d'être un peu musclé à l'intérieur.
Mmh. Il y a aussi des pages concernant la question médiatique, qui sont tout à fait intéressantes, parce que vous-même, vous êtes plongé dans cet univers médiatique, comme cardinal de l'Église catholique, exposé, auteur d'ouvrages, invité à de nombreuses émissions. Vous parlez d'un sadisme médiatique. J'oserais vous dire, Monseigneur, que c'est osé, alors que c'est vrai que les médias vous sollicitent beaucoup, et que je ne dirais pas qu'ils sont bienveillants, mais quand même, vous êtes assez accueilli dans le monde médiatique.
Oh ben, je rends grâce à Dieu quand je suis bien accueilli.
Mais vous dites qu'il y a un sadisme médiatique.
Alors, pourquoi je dis ça? Évidemment, j'utilise des termes pour provoquer, oui, pour réveiller les consciences. Dans le sadisme, on fait du mal.
Oui.
On fait du mal, on sait qu'on fait du mal et on continue à faire du mal. Si je dis médiatique, j'ajoute les termes médiatique, c'est parce que parfois, dans la vie médiatique, ceux qui ont des responsabilités politiques, économiques, ecclésiastiques ou autres, on voit les personnes et parfois, si une personne a une faille ou il a fait quelque chose, on va faire une affaire. On va créer des polémiques, on va nourrir les polémiques et on va s'amuser presque à tirer sur des ambulances. Oui. Ce n'est pas normal. Je dirais même c'est cruel. Donc nous devons apprendre, me semble-t-il, à être beaucoup plus respectueux. Si quelqu'un est en train de souffrir, c'est pas, il y a une personnalité publique, elle vit quelque chose de compliqué. Déjà, les médias le dénoncent. Si en plus, toi, tu en rajoutes, mais tu te dis, mais est-ce qu'on a pensé que derrière la fonction de cette personne, il y a une personne, il y a une famille, il y a une sensibilité, on n'est pas des robots? On est touché aussi. Et moi, je crois que nous devons être beaucoup plus respectueux du mystère de l'autre. Il y a une justice en ce pays. C'est la justice de faire ce qu'il faut faire. Mais parfois, j'ai l'impression que tout le monde prend la place de la justice. Je crois qu'il faudrait respecter la mission de chacun dans la société. Je ne dis pas qu'il faut être naïf, mais il faut en même temps être indulgent.
Alors, dans l'autre partie de cette émission, je vous promets, Monseigneur, nous allons parler de retenue, de nuance, de discrétion, de réflexion, de dignité, d'honneur, de pudeur, de politesse. Parce que ce sont des mots que vous employez aussi dans ce... d'émerveillement, de spontanéité. Mais juste pour terminer sur cette partie-là, toujours sur cet aspect un peu médiatique, vous diriez qu'aujourd'hui, plutôt que de développer de la force intérieure, on développe des stratégies de protection, des stratégies de communication, des contournements.
On est presque systématiquement dans la tactique,
dans la stratégie, les postures un peu,
et dans les politiques, parce que on a peur de l'autre, on a peur de se faire piéger par l'autre, et à la fin, eh ben on se protège. C'est très basique, hein, on se protège. Et je crois que si on se protège, c'est parce qu'on a peur de l'autre. Et alors comment arriver à voir, à échanger d'une manière sereine, d'une manière fraternelle, d'une manière intelligente, sans avoir peur que l'autre soit une menace, qu'il me pose la question piège ou qu'il me fasse, je sais pas, qu'il me pose quand même des questions compliquées. Il faut retrouver une forme de sérénité, une forme aussi de confiance pour que dans nos relations interpersonnelles, ne soyons pas toujours crispés, ne soyons pas toujours fracturés.
Le livre s'intitule « Réparation ». Il est signé Cardinal François Bustillo. Nous marquons une courte pause, si vous voulez bien, Monseigneur. Et puis, juste après cette pause, nous en arrivons à cet autre grand chapitre que vous proposez, « Retrouver le sens vers une autre manière d'exister ». Et vous nous parlerez du message chrétien, Vous nous parlerez de ces beaux mots que sont bienveillance et puis accompagnement de toutes les personnes dans le cadre d'une miséricorde, du pardon, etc. Parce qu'il y a aussi tout ce volet-là dans votre ouvrage paru aux éditions Fayard. À tout de suite.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence, de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui, c'est le cardinal François Bustillot. Merci de prendre ce temps avec nous. Vous êtes de passage à Lourdes, je crois que vous aimez ce lieu pour sa grâce, pour sa simplicité, cette simplicité de la foi telle qu'elle s'exprime ici, non ?
C'est le lieu qui a marqué mon histoire personnelle aussi. Et depuis que je suis tout jeune franciscain, depuis que j'avais 18 ans, je venais à Lourdes, au pavillon de l'Immaculée, à côté du château. Donc chaque été, je venais ici. Après, je suis devenu prêtre, j'ai eu des responsabilités, mais Lourdes a été toujours un lieu où la grotte m'a toujours attiré. Parce qu'il y a ce côté grotte, le côté sombre, mais il y a aussi quand même la présence de Marie avec ce côté lumineux, ce sourire magnifique. Donc c'est un lieu de pèlerinage pour ma vie personnelle, où je viens déposer et remercier pour tout ce qui est bon et bien, et déposer aussi mes questions, mes doutes, mes douleurs, pour que Marie soit ma force et mon soutien.
Pour être consolé, vous diriez ça ?
C'est un lieu de réconfort, absolument. Il faut être réparé, c'est un lieu de consolation, c'est un lieu de réparation, c'est un lieu de réconfort. Et la Vierge Marie, voilà, elle qui était au pied de la croix, elle a cette capacité de nous transmettre la force intérieure pour tenir quand nous vivons, nous aussi, des croix.
Dans cet ouvrage, Réparation, vous posez cette question un peu abrupte. Une société fracturée peut-elle survivre ? Et vous apportez des réponses. Vous croyez en la politique, Monseigneur, et vous le dites. Vous croyez dans le bien commun. Vous croyez dans les vertus qui peuvent paraître, à notre monde d'aujourd'hui, presque naïves, dans le message chrétien. Est-ce que vous diriez, et c'est ma première question, sur tout l'autre volet de votre ouvrage, qui est un volet du sens, d'essayer de redonner de l'espérance, est-ce que vous diriez que le message est difficile à faire passer ? Aujourd'hui pour l'Église. L'Église a du mal avec ce message dont elle est...
Le message est difficile à passer, effectivement, mais il est opportun, il est nécessaire.
Oui.
Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, certaines valeurs, certains principes venant de l'Évangile peuvent sembler des principes pour des gens fragiles, pour des gentils, un peu naïfs, comme vous dites. Mais notre société, elle est devenue tellement dure qu'on est en train de se robotiser. On déclenche des mécanismes carrément liés aux machines. Si je reviens sur des termes un peu comme l'émerveillement, la douceur, la bienveillance, la bénédiction, c'est justement parce que je crois que ces valeurs sont liées à notre humanité, perfectionnent notre humanité, humanisent, je dirais même, notre humanité. Ces valeurs viennent de l'Évangile. Heureux les doux. Les doux ne sont pas les mielleux. Dans la douceur, il y a toujours un lien avec la terre et avec l'amour. Il ne s'agit pas d'être ni naïf, ni rien du tout. Mais quand Jésus dit « heureux les doux », il nous dit « aimer ». Et quand je dis cette longue liste de comportements et d'attitudes, si on va à la racine de tous ces termes, il y a l'amour. Quand tu aimes, tu es doux, tu es respectueux, tu es dans une logique de bénédiction, tu es indulgent, tu crois à la rédemption, etc., etc. Donc, il faut revenir. Moi, je pense que comme dans la tradition grecque, il y avait le combat Eros-Thanatos, ça continue. Mais il ne faut pas que la mort l'emporte. C'est l'amour qui doit l'emporter. Et peut-être que nous, chrétiens, nous ne parlons pas assez d'amour. On va parler d'autres choses, mais on a peur de parler d'amour, parce que si tu parles d'amour, on va voir les côtés un peu romantiques, sentimentaux, un peu légers, peace and love. Et on a besoin de retrouver une société, parce que notre société, si elle est violente, si je la décris dans la première partie comme violente, dure, intransigeante, c'est parce qu'elle n'est pas aimable. Parce qu'on a évacué l'amour.
Et vous,
donc,
vous
il faut revenir à l'amour.
Vous ne voulez pas qu'on confonde l'amour avec une affection passagère. On est des affectifs quand même dans notre société.
On est des affectifs.
On a le cœur battant vite pour beaucoup de choses.
Bien sûr. Mais il y a l'affection, il y a l'amour. C'est différent. Dans l'affection, il y a une attirance naturelle. Il y a quelque chose d'émotionnel, de rapide. Mais dans l'amour, l'amour est exigeant. Vous savez, quand Saint Paul dit l'amour accepte tout, prend tout, l'amour ne passera jamais. C'était l'amour exigeant et l'amour difficile. Là, on n'est pas dans la poésie. Et cet amour est puissant parce qu'il change les vies. Et notre société a besoin de retrouver cet amour vrai, authentique et réel, parce qu'alors, quand on aime, on va mieux et on vit mieux.
Vous dites aussi dans votre livre que vous croyez en la famille, en l'éducation, en la culture et en la politique. On reste quand même exigeant pour l'archevêque que vous êtes, l'évêque que vous êtes, le cardinal que vous êtes, avec le monde politique qui ne montre pas toujours un visage extrêmement positif, de confiance.
Effectivement, quand on regarde la vie sociale en général, on se rend compte très vite qu'on n'est pas au paradis.
Oui.
Quand on regarde la vie politique, économique, même de l'Église, nous ne sommes pas un club de parfaits. Et en même temps, la vie sociale a besoin de l'engagement des uns et des autres, a besoin de personnes qui s'engagent dans l'Église pour l'animation spirituelle, pour l'animation spirituelle, pour l'animation de la transcendance, de la hauteur, de la profondeur. Mais notre société a besoin de l'engagement des élus, de nos politiques. C'est pour ça que je le dis, parce que je le crois. Et nos politiques sont une bénédiction pour la société. Vous imaginez une société où il n'y avait pas des hommes et des femmes qui s'engagent pour le bien commun et pour les autres.
Que vous ne confondez pas avec l'intérêt général. Le bien commun, vous le distinguez. Hein.
Pour moi, il est important de souligner le bien commun. Dans l'intérêt général, il y a l'intérêt aussi. Et l'intérêt pourrait être interprété d'une manière maladroite. Quand on parle de bien commun, on parle de bien et commun à tous. Donc il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de comportement maladroit, c'est le bien pour tous. Alors, notre société et nos politiques, et je les encourage à continuer leur parcours. Parce qu'on va voir surtout certains qui sont peut-être maladroits et qui profitent du système, mais la majorité des élus que je rencontre, je vois qu'ils veulent le bien de la société, qui s'engage, qui sacrifie du temps pour la société, pour ils sacrifient parfois leur famille, c'est pas évident, ils prennent beaucoup de coups, ils pourraient être aussi découragés. La société sans on est en démocratie. Soyons simples, on est en démocratie. De quoi se nourrit la démocratie? De l'engagement des uns et des autres. Il n'y a pas d'engagement, on tombe dans des régimes totalitaires. On tourne aussi, ou on se tourne vers l'anarchie, donc il faut revenir à l'essentiel. Il faut célébrer ces hommes et ces femmes qui s'engagent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour une société meilleure. Après, il faut qu'ils vivent aussi leur conversion, qu'il y ait plus de proximité, qu'il y ait plus de détachement, qu'il y ait plus de liberté, plus d'authenticité, moins des mécanismes peut-être de système, et plus de liberté en pensant au bien des autres. Je pense que nos hommes et nos femmes politiques, ils grandissent et ils nous font grandir quand ils se détournent d'eux-mêmes et ils se tournent vers le peuple. Ils n'oublient pas qu'ils ont été élus par le peuple et pour le peuple.
On retrouve dans cet ouvrage des aspects de votre vie de religieux à travers la question de la quête intérieure, à travers la question de la force intérieure dont vous avez parlé, et puis ce recul et ce silence que vous voulez... d'une certaine façon, réhabiliter, faire ce pas de côté parfois, oser prendre son temps, ne pas toujours être dans les mots.
Il le faut. Et notre société nous pousse à une forme d'agitation intellectuelle et actuelle. On est dans l'agitation, la société est frénétique, on court tout le temps, et on s'agite. Et peut-être la dimension du silence et du recul nous donne la capacité d'être plus dans la réflexion et moins dans l'agitation. Et la tradition monastique, je le dis avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'admiration, dans la tradition monastique, on se pose, on se repose. pause. On prend le temps. On ne perd pas du temps. On prend le temps pour soi, pour la nature, pour les autres. Autrement, on va être branché sur la voie, le savoir, le pouvoir, le faire. On ne soignait pas l'être. Et si on ne soignait pas l'être, on est malheureux. Et on rend les autres malheureux. Alors, il faut réparer d'abord. Il faut commencer toujours. Le chantier, il est à l'intérieur de nous. Donc, il faut commencer toujours par soi-même, par son propre cœur, sa conscience. Et après, à partir de là, on peut aller plus loin et on peut rayonner avec les autres.
Il nous reste quelques trop courtes minutes pour que vous nous parliez de la Corse. Vous êtes évêque d'Ajaccio pour l'ensemble de la Corse. J'imagine que vous voyez l'île de beauté. Et puis vous voyez aussi l'île qui a ses travers, ses difficultés, ses joies et ses peines au sein même des communautés chrétiennes. Qu'est-ce que vous diriez, avec un peu de recul maintenant, de ce que vous vivez au plan apostolique en Corse ?
La Corse m'a beaucoup appris depuis que je suis évêque. Effectivement, il y a des travers, il y a des combats, il y a des atouts uniques. La Corse m'a appris la dimension aussi de la proximité. Quand on est évêque, et on n'est pas là juste pour faire des messes pontificales, il nous faut aussi avoir cette proximité avec les personnes qui nous sont confiées. Si je ne connais pas les autres, leurs peurs, leur espérance, leur joie, leur rêve, de quoi je parle à l'homélie ? Certes, il y a la parole de Dieu, mais la parole de Dieu nous est donnée pour un peuple auquel je prêche. Donc pour moi, il était important, et les Corses m'ont appris, cette simplicité dans la vie relationnelle. Il y a un esprit de famille en Corse. Un esprit de famille qui est important. L'Église n'est pas vue comme une menace. Il n'y a pas d'hostilité idéologique. Au contraire, il y a beaucoup de respect. Et je crois que dans ce respect, nous devons vivre et grandir. L'Église doit apporter à la société son génie propre. Et l'Église a besoin aussi d'apprendre de la société, de ceux qui sont engagés dans la vie politique, économique, sportive, culturelle, que sais-je. On a besoin d'apprendre les uns des autres. Dans des périodes de crise, et je le vois en Corse, il faut fédérer. Et pour moi, il est toujours fascinant de me retrouver dans des milieux très différent de mon écosystème ecclésiastique et de voir qu'on est avec des bergers, qu'on est avec le milieu économique, qu'on bénit un bateau, qu'on va à un match, qu'on participe à un concert.
Vous aimez tout ça, toute cette diversité ?
C'est là qu'on voit aussi de quoi les gens vivent et pourquoi ils vivent. Si moi je vais à la messe, j'aurai toujours les miens, et c'est important. Si je vais à un match, ils seront pas contre moi ou contre l'Église. Ils vont pas peut-être tous les dimanches à la messe, mais on va avoir des contacts différents. Et je crois qu'il est important de tisser ces liens qui sont simples, mais à court ou à long terme, ils sont efficaces.
Merci beaucoup pour cet échange, cardinal Bustillo. Je rappelle le titre de cet ouvrage paru aux éditions Fayard, Réparation. On sent le philosophe. On sent le religieux, évidemment, et puis toute l'espérance chrétienne qui habite ce livre. Merci beaucoup. Vous terminez d'ailleurs toute la conclusion par la parabole des talents. Chacun a un talent à porter, c'est ce que vous disiez à l'instant. Merci beaucoup. Et puis,
merci à vous.
Bon pèlerinage à Lourdes, puisque vous êtes une nouvelle fois de passage à Lourdes à l'occasion du pèlerinage du Rosaire.
Merci à vous. Merci de m'avoir invité.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Présence.
Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Ça suffit de rassembler nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant. De ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Scène de liesse et de joie à Tel Aviv, mais aussi à Ramallah et à Gaza, les 20 otages israéliens des